bonjour. Voilà, nous sommes heureux de vous retrouver, comme chaque semaine sur les ondes de Radio Galère, sur Internet, vous le savez, sur la modulation de fréquence et sur la radio DAB numérique où Galère est présent. Et puis, avec mes partenaires habituels, d'une part Roselyne, bonjour.
Bonjour.
D'autre part Habib, et puis Yamine, qui fait aussi partie des partenaires habituels désormais dans son aquarium.
Bonjour Bernard.
Bonjour Yamine. Alors en attendant, on aura tout à l'heure donc une interview d'un avocat que vous avez déjà entendu sur notre antenne qui s'appelle Gilles Devers, qui a une spécialité, je ne sais pas si c'est la seule, mais de travailler sur les questions, les dossiers de droit international, ce qui est assez conforme à nos activités et puis qui est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses qui ne sont pas dans la grande presse et qui sont en même temps très intéressantes politiquement. Et il nous parlera cette fois du front Polisario et de la situation dans l'ex-Sahara espagnol. À l'occasion, parce que vous savez, je ne m'étends pas là-dessus puisqu'il va le faire, vous savez que le Premier ministre espagnol qui avait jusqu'à présent tenu une position correcte, puisque la zone du territoire, donc le Sahara espagnol, est une zone décolonisée par l'Espagne, puis ça appartenait à l'Espagne, qu'il a laissé, qu'il a remis en gérance, en gérance à l'ONU, qui a dit qu'il faudrait qu'il y ait un référendum d'autodétermination pour savoir ce que ce territoire devenait. Donc ça veut dire, c'est la parole aux habitants du Sahara occidental de choisir. En fait, ça existe, la décision de l'ONU a été prise, il y a un inspecteur de l'ONU qui vient régulièrement sur place, etc. Et ça fait, je crois, 20 ans maintenant que la décision de l'ONU n'est pas appliquée et que le Royaume du Maroc s'assoit dessus sans qu'il ne lui arrive rien. Alors j'insiste là-dessus parce que à une période où on entend parler de sanctions extraordinairement brutales, violentes contre des États qui ne font pas ce qu'on attendrait d'eux, là, il n'est absolument rien arrivé au Royaume du Maroc. Hein. Rien du tout. Hein. Aucune sanction. Voilà, ils sont américains, dit Habib, voilà. Bon, on le sait, ils sont très liés maintenant avec Israël, bon, on sait tout ça. Bon, c'est de ça que Gilles Devers nous parlera tout à l'heure quand il sera revenu à son bureau. Et je vais donc, avant de parler, on en parlera beaucoup après, de ce qui se passe autour de l'Ukraine, mais ce qui se passe autour de l'Ukraine, en fait, il faut bien savoir que c'est mondial. C'est-à-dire qu'il y a les choses sur le terrain elles-mêmes, et dans différents endroits de l'Ukraine, qui sont touchés de façon assez différente les uns des autres. D'ailleurs, on pourra en reparler. Mais il y a les échos internationaux qui sont considérables. Celui sur lequel je vais m'arrêter, c'est une déclaration qui a été rédigée et soumise par un prix Nobel de la paix qui est argentin, qui s'appelle Alfredo Esquivel, qui a pris position sur le conflit en disant que la Russie avait raison de se défendre par rapport aux agressions dont elle était victime. Bon. Alors, ça c'est très très clair dans l'expression. Alors, il regrette, et bien tout le monde regrette que la question qui est posée par la Russie n'ait pu être réglée par des voies diplomatiques, mais on a dit et on redira que les voies diplomatiques ont été toutes explorées aussi longtemps que possible par la diplomatie russe et qu'elles étaient toutes fermées. Bon. C'est ça qui se joue en ce moment, et c'est pour ça que ça a une incidence internationale sur à peu près tous les dossiers qu'on peut examiner aujourd'hui. Incidence internationale, et j'en reviens aussi à parler de caractère global, vous savez que la plus grande partie des pays du monde sont adhérents à l'Organisation mondiale du commerce. Ce qui veut dire accepter les principes du libre-échange, ne pas tricher sur les droits de douane, donner à chaque État membre ce qu'on appelle le clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire ne pas mettre des barrages à l'arrivée d'un produit parce qu'il vient d'un autre qu'on n'aime pas. À l'inverse, lui-même s'engage à ne pas mettre de barrages douanières ou tarifaires ou au niveau de règlements sanitaires ou autres par rapport aux produits que vous allez pouvoir lui vendre. Ça, c'est le fondement, j'allais dire, de principe, la philosophie de l'Organisation mondiale du commerce. Or, quand on voit que les gens qui ont fondé l'Organisation mondiale du commerce, c'est-à-dire en gros tous les pays occidentaux, qui ont accepté petit à petit d'autres qui n'étaient pas dans leur camp au début, je pense à la Chine à l'année 2000, à la Russie, ça a été beaucoup plus tardif parce que la Russie a demandé, il y a très longtemps, après la disparition de l'URSS et l'OMC, s'est beaucoup fait tirer l'oreille pour finir par accepter la Russie qui n'y est rentrée qu'en 2012. Bon. Mais à partir du moment où tout le monde, ou quasiment tout le monde est là, le principe même de sanctions est une violation du principe même de l'Organisation mondiale du commerce. Or ça, on fait comme si on l'avait pas vu. Alors j'ai regardé effectivement dans le texte de l'OMC, il n'y a rien de dit. Mais à la limite, un pays qui à la fois défend les principes de la liberté du commerce et qui se met du jour au lendemain à dire « lui, je ne veux plus commercer avec lui » ou « ne commercez pas avec lui, c'est interdit », il viole le principe même de l'Organisation mondiale du commerce. Et il devrait, à la limite, être exclu, puisqu'en fait, il a adhéré à des principes et il ne les défend pas et il s'assoit dessus quand il a envie. Bon, ce n'est pas prévu dans les textes fondateurs de l'Organisation mondiale du commerce. Mais il faut le rappeler parce qu'on est dans un paradoxe extrême où et beaucoup de gens le croient et tout le monde accepte. On dit, c'est bien que l'économie soit internationalisée, que chacun puisse commercier avec ses voisins, avec tout le monde, acheter à l'extérieur des produits qu'il n'a pas, par exemple du pétrole, du gaz et tout. Mais à partir du moment où ces règles de liberté du commerce sont violées par ceux qui sont même les fondateurs de cette liberté et les défenseurs sur les principes de, ces, de ce commerce, on se demande à quoi servent les statuts de l'OMC. Bon. On en reparlera sûrement. En attendant, je vais vous faire un petit portrait d'un personnage que vous avez peut-être vu ces jours-ci sur vos écrans de télévision. C'est une dame qui s'appelle Madame Salomé Zourabichvili. Cette dame se trouve, elle, à l'heure où je vous parle, être présidente de la Géorgie, présidente de la République géorgienne, puisque la Géorgie, donc, ce petit pays donc, frontalier sur les bords de la mer Noire, tout à côté de la Russie, 5 millions d'habitants, est une démocratie, c'est une ancienne république socialiste soviétique qui est devenue indépendante comme les autres après 91. Madame Salomé Zourabichvili a un parcours un peu particulier, puisqu'en fait, elle est née en France en 1952. Elle est née en France, pourquoi ? Parce que sa famille, qui était, alors renseignement pris, mais ce n'est pas très très visible dans ses biographies telles qu'on peut les lire, mais ça se sait quand on cherche à savoir, fait partie d'une famille de la grande aristocratie géorgienne. Il y a même des gens en Géorgie qui l'appellent la princesse Zourabichvili, rien que ça. Bon. Donc elle est issue d'une famille donc aristocratique, très cultivée, avec des économistes, des philosophes, voilà, le gratin de la société géorgienne. Mais il se trouve que dans cette société géorgienne, quand la guerre de 1914-18 finit, et que la République de Géorgie devient pour un certain temps une république indépendante alors qu'elle faisait partie de l'Empire ottoman, il y a une période d'incertitude où on ne sait pas trop dans quel camp elle va tomber, quel régime elle va adopter, etc. Et quand il s'avère que c'est les soviétiques, donc les bolcheviques, qui vont prendre le pouvoir en Géorgie, ça a été d'ailleurs le cas tout à fait semblable en Ukraine, c'est-à-dire il y a une période de flottement entre 1917, les dernières années de la guerre, et la période où l'URSS se stabilise. Bon. Et donc en 1922, c'est effectivement le parti communiste soviétique qui prend le pouvoir, c'est les bolcheviques qui prennent le pouvoir à Tbilissi. Bon. Imaginons, c'est pas non plus beaucoup développé dans sa biographie, imaginons la famille Saakashvili Zourabichvili, qui voit arriver les bolcheviques avec, vous savez, un énorme couteau entre les dents, dirigé en plus par un fils d'ouvrier géorgien, certains camarades Joseph Staline. Bon, un état de transe, on imagine. Donc, ils ne peuvent que s'en aller. Ils ne peuvent que s'en aller, ils sauvent leurs biens, ils sauvent leur peau peut-être.
Et ils viennent en France.
Donc on a, vous voyez, c'est très révélateur de cette double Géorgie, donc cette aristocratie qui fuit. Il y en a eu d'autres, ça a été le même cas, même les Russes blancs qui sont partis après la guerre civile. En Ukraine, ça a été la même chose. Il y a eu effectivement cette période de flottement entre le moment où l'Empire tsariste arrête la guerre, c'est-à-dire 1917, et le moment où s'achève la guerre civile organisée par l'Occident contre le nouveau pouvoir bolchevique en 1922. Et là, il y a du flottement un peu partout. Il y a d'abord la guerre civile, la guerre pas que civile, puisqu'il y a 17 armées étrangères sur le sol de l'URSS, bon, rien que ça, de l'ouest en ouest, il y en a partout. Et donc, dans cette période de flottement, effectivement, avant que les amis de Staline prennent le pouvoir, la famille Zourabichvili s'enfuit. C'est son problème, ils ne sont pas les seuls et tout. Et elle s'installe en France, et donc il va naître une jeune fille qui s'appelle Salomé, qui va naître en 52 dans cette famille. Cette famille, d'ailleurs, Madame Zourabichvili a un oncle, je le signale quand même, qui a donné naissance à une dame que vous connaissez, donc vous connaissez tous le nom, alors qui porte plus le nom de Zourabichvili, mais qui s'appelle Madame Hélène Carrère d'Ancos. C'est la cousine de Salomé Zourabichvili. C'est donc la fille de l'oncle de Salomé Zourabichvili. Alors, Madame Carrère d'Ancos, vous la savez, historienne, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, enfin, le gratin, les quatre quartiers de noblesse bourgeoise dans la République française actuelle, pas de doute. Madame Salomé, donc, avec cet arrière-plan, ses capacités culturelles, cette bonne éducation, je veux dire, elle est entourée de philosophes, d'économistes, de juristes et tout, fait des études, mais qu'elle interrompt assez brutalement, parce qu'en 1974, elle rentre au ministère des Affaires étrangères. Elle a 22 ans. Or, pour entrer au ministère des Affaires étrangères, première curiosité, il faut en général passer par l'ENA pour les postes de direction, hein. Vous savez qu'à la sortie de l'ENA, il y a des classements par ministère. Il y en a qui vont au ministère du Travail, d'autres au ministère de l'Économie. Il y en a qui vont au Quai d'Orsay. Bon. Et puis, il y a un autre accès au ministère des Affaires étrangères qui est pour les postes dans la diplomatie en Orient, une spécialité française. Il y a un concours très difficile d'accès parce qu'il faut savoir parler le Khmer, le Vietnamien, etc. Bon, très, très sélectif. Et donc, elle passe pas par là. Elle est embauchée apparemment comme contractuelle. Mais là aussi, les biographies ne sont pas très, très précises.
Ce qui signifie qu'elle a la nationalité française.
Elle est pas, alors, du fait du droit du sol.
Ouais, ouais.
Elle est née. Alors, je n'ai pas trouvé non plus, si ses parents avaient été naturalisés français après 1920, c'est possible. Hein. De toute façon, droit du sol, elle est née en France en 1952, elle a la nationalité française. Ce qui veut dire qu'elle aurait pu, par exemple, faire Sciences Po, passer par l'ENA, etc. Bon. Elle rentre directement au ministère des Affaires étrangères, sous contrat. Ça existe, des contractuels dans la fonction publique, pas de surprise, jusqu'à présent. Et là, elle va faire une carrière extrêmement inattendue et très brillante par rapport au fait qu'elle n'est pas passée par la filière normale. On va la retrouver, par exemple, alors elle fait partie de groupes, disons, connus. Alors, je signale qu'après être rentrée au ministère des Affaires étrangères, elle va faire un stage à l'université de Columbia, ça a son importance, où elle suit les séminaires d'un certain Zbigniew Brzezinski. Là, vous savez, le chef de la géopolitique états-unienne, conseiller de Carter, etc. Alors, elle n'était pas la seule, mais je pense qu'une personne ayant son rang, son passé politique, donc elle est classée comme les gens de la droite traditionnelle, anti-soviétique, anti-communiste et tout, vue sous le regard de M. Brzezinski, elle pouvait rendre service, c'est le point qu'on peut imaginer. Bon. Et de fait, sa carrière va devenir très rapide dans l'administration française, puisqu'elle est dans l'administration française. Monsieur Alain Juppé, quand il sera premier ministre des Affaires étrangères dans le cabinet donc de 1995, la prend dans son cabinet même. Il l'envoie à un poste qui suit de la représentation permanente de la France à l'OTAN. Vous savez qu'à l'OTAN, à Bruxelles, tous les pays membres de l'OTAN ont des délégués qui sont à la fois des militaires et des civils. Et donc, c'est la représentation permanente de la France auprès de l'OTAN. Qui, M. Juppé, nomme-t-il ? Madame Salomé Zourabichvili. Non, ça en dit assez long. Et puis, alors, elle monte encore et elle va devenir assez vite, on est après 2000, elle va devenir ambassadeur de France à Tbilissi. Alors, bien entendu, elle a un nom géorgien, elle parle le géorgien avec, paraît-il, un petit accent parisien, mais enfin bon, ça c'est pour l'anecdote. Et donc, elle devient ambassadeur de France à Tbilissi. Et on est en 2003, M. Jacques Chirac, qui est donc président de la République, accueille dans son bureau à l'Élysée. Alors moi, j'ai entendu un témoin. C'est pour ça que je le dis, parce que ce n'est pas dans les biographies non plus. Accueille dans son bureau le nouveau chef d'État géorgien qui s'appelle M. Mikhail Saakashvili, dont on a entendu parler par ailleurs, qui est arrivé au pouvoir, qui a organisé pour arriver au pouvoir avec le soutien des États-Unis ce qu'on appelle la révolution des roses. Tbilissi, ça a été la première des révolutions de couleur, la révolution géorgienne. Et donc, Mme Zourabichvili fait partie des personnes qui sont dans le bureau de l'Élysée quand M. Saakashvili est reçu par le président de la République française. Et à un moment donné de la réunion, M. Saakashvili s'adresse à M. Chirac, qui dit « Vous pouvez me l'envoyer, désignant Mme Salomé Zourabichvili, parce que j'ai besoin d'un ministre des Affaires étrangères. » Ce qui fut fait. Et Chirac, grand seigneur, il sait à qui il a affaire. Hein. Et puis, il est assez favorable à l'opération qui est en cours en Géorgie, etc. Hein. Donc, la voilà partie. Alors, elle part, c'est un peu embêtant, parce qu'elle part, elle a été ambassadeur de France, donc elle était française, elle représentait la France en entier. Arrivée là-bas, on veut la mettre ministre des Affaires étrangères, alors il y a quand même un petit souci, parce qu'il faudrait quand même qu'elle ait la nationalité géorgienne, ça ferait pas de mal dans le tableau. Bon, ça va s'arranger. On va lui donner, paraît-il, à la sortie de l'avion, un passeport géorgien, et la voilà, ministre des Affaires étrangères de Géorgie. Attends, carrière ultra rapide. Alors je passe sur les suites, c'est trop cocasse. Donc elle va prendre la tête ensuite d'un parti politique, Elle joue complètement le jeu de la politique en tant que ministre. Et elle va être élue par deux fois, avec une interruption entre les deux, par deux fois présidente de la République géorgienne. Ce qu'elle est encore aujourd'hui au cours de son deuxième mandat. Mais il y a eu un mandat où elle n'a pas été élue entre les deux. Ça, c'est très intéressant parce que ça lui donne un poids. Et c'est pour ça que ces dernières semaines, on l'a vu sur un certain nombre d'écrans. Alors, inutile de vous dire que cette dame, quand elle demande à être reçue à Paris, elle va directement à l'Élysée, même sans frapper à la porte. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Elle est otanienne jusqu'au bout des ongles. Elle a de la famille, la belle famille en France. Il paraît que la famille est aisée financièrement. Madame Carrère-Dancos est un poids lourd dans la nomenclature intellectuelle française. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Macron l'a reçue, mais tout le monde l'a recevée sans aucun problème. La voilà donc présidente de la République, elle l'est encore pour son deuxième mandat, et on a pu la voir ces derniers temps sur les écrans de télévision, parce qu'elle était reçue par Madame von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, pour dire tout le bien qu'elle pensait de ces Ukrainiens qui en ont marre des Russes, etc. Bon, elle était tout à fait dans son rôle, et elle ne pouvait pas dire autre chose, vu le passé que je vous ai brièvement décrit. Bon. Il se trouve que cette dame, alors ça c'est le gag parce que c'est dans aucune source d'information en langue française, je l'ai trouvé sur un site canadien, a des ennuis avec le gouvernement géorgien à l'heure actuelle et que cette dame va passer devant un tribunal. Alors ça on vous le dira surtout pas. Pourquoi ? Parce que cette dame en tant que présidente de la République, elle doit respecter la constitution de la République géorgienne. Or, la constitution de la Géorgie n'est pas du tout une constitution présidentielle. Il est très clair que la politique, elle est menée par le Premier ministre et son gouvernement. Et que la présidente de la République géorgienne est un peu comme la présidente chez nous de la 4e République ou de la 3e. C'est un poste honorifique qui a un certain lustre, mais pas plus que ça. Bon, elle occupe ça très bien. Mais elle s'est mise à inviter des représentants du gouvernement de M. Zelensky à Tbilissi. Elle a dit, ce qui n'était pas son rôle, donc elle a outrepassé ses pouvoirs, que la Géorgie allait soutenir le gouvernement ukrainien. Et c'est à ce moment-là que le Premier ministre s'est fâché en disant « Mais madame, vous outrepassez vos droits, vous violez la Constitution. Hein, » Et donc le gouvernement de Géorgie vient de porter plainte contre la présidente de la République pour violation de la Constitution de la République géorgienne. Ça devient très très intéressant. Roselyne,
t'as une... Justement, moi j'avais cru comprendre que les Géorgiens étaient plutôt pro-russes dans cette histoire. Je me trompe ?
Ah non,
si.
Oui.
Alors ils sont disons entre les deux, hein, mais c'est clair qu'ils ne sont pas hostiles du tout. Ils ne sont pas du tout dans le camp occidental ferme.
Ah,
Mais ils sont travaillés par des personnages comme elle, qui a des amis aussi, qui a des réseaux, etc. L'Occident joue un rôle très très fort, au point que la dernière manœuvre a consisté à dire que la Géorgie avait demandé son adhésion à l'Union européenne. Ça remonte à ces derniers jours. Opération qui va prendre très longtemps. Vous savez qu'une adhésion à l'Union européenne peut prendre entre 5 et 20 ans. Hein, parce que c'est très très lourd. Donc c'est facile, c'est un geste diplomatique. Mais là encore, elle a outrepassé ses pouvoirs. Ce n'est pas le Parlement et ce n'est pas le gouvernement qui en ont décidé.
C'est un peu comme l'État d'Israël actuellement qui joue le double jeu.
Voilà.
Quoi.
Et donc effectivement, les relations sont quand même assez étroites. Il y a le voisinage d'abord. Hein, de l'autre côté du Caucase, il y a la Russie. Il y a l'Arménie de l'autre côté. Enfin bon, voilà. Donc la suite que vous ne verrez pas dans les journaux, et on ne va pas en parler sur les télévisions et les radios françaises nationales, Madame Salomé Zourabichvili va passer devant l'espèce de cour suprême qui existe dans la Constitution géorgienne pour violation de la Constitution. C'est pas triste, hein, c'est pas triste, mais c'est des cas dont on ne nous parle pas, on nous en dit que la moitié ou même le quart pour qu'on ne comprenne pas bien. Alors, elle présente très bien, elle est respectable, elle est cultivée, elle parle bien, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Oui, elle a fait des études en France, je ne sais pas ce qu'elle a fait, une Sciences Po quelconque, Columbia University, ça fait très joli. Elle parle le géorgien, elle a des rudiments d'italien. Enfin, bon, personne présentant très bien. Simplement, elle est tellement agent occidental, et c'est ça la conclusion, qu'elle ne peut pas s'empêcher d'abuser de son pouvoir. C'est ça que je voulais dire. Et puisque j'en suis sur le thème de la violation de la Constitution, mais on en reparlera sûrement encore la semaine prochaine, je veux rappeler que les Français vont élire un monsieur qui est président de la République, mais qui est aussi chef de l'État. Hein, on le dit bien, le chef de l'État. Chef de l'État, donc, c'est le chef d'une structure avec des ministères, des fonctionnaires, une armée, etc. C'est pas que ça. Hein, le chef de l'État, il est responsable d'une espèce d'entité qui vit à l'intérieur de la République française. C'est pas la République toute seule. C'est le corps qui fait fonctionner. C'est une espèce d'ossature de la République. Le chef de l'État, et c'est là-dessus que je voulais aboutir, le chef de l'État est censé défendre le bien que la France lui a remis, que les citoyens lui ont remis. S'il ne le fait pas, c'est qu'il ne remplit pas son rôle. Et s'il détruit l'État, par exemple en supprimant les fonctionnaires, en cassant les collectivités locales, enfin, il y a foule d'exemples, il est en tort par rapport à la Constitution. Il n'est plus le chef de l'État, il est le démolisseur de l'État. Un jour, il faudra qu'il en rende des comptes. Voilà. Mais ça, j'ouvre un débat qui continuera, je pense, même dans 15 jours et peut-être assez longtemps après. Mais on en arrive à l'heure où on va avoir peut-être en ligne notre ami Gilles Devers. Je ne sais pas si tu l'as eu.
Alors, j'ai toujours pas de réponse.
Ça va. Ben, il m'avait dit qu'il était en réunion, donc on le rappelle dans un petit moment.
Oui, hein. je reste connecté.
Tu restes,
vigilant.
Voilà.
Je te fais signe dès que c'est bon.
Superbe. Merci. Alors, puisqu'on en est dans le chapitre des drôles de gens qui sont dans les coulisses...
C'est pas étonnant que la France elle reste colonialiste.
Hein. Ben oui. Bon, ouais. Vous vous souvenez pas, alors c'était, je crois, il y a 4 ans exactement, si ma mémoire ne me trompe pas, il s'est passé en Grande-Bretagne une affaire étrange qu'on a appelée l'affaire Skripal. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux personnages qu'on a retrouvés sur un banc dans un état assez grave, dans un jardin public, dans une petite ville britannique. Qui paraît-il, alors c'était des citoyens russes qui vivaient en Grande-Bretagne, qui paraît-il auraient été empoisonnés par les services secrets russes avec le poison russe typique qu'on appelle le Novichok. Bon. Poisson, alors, qui est, renseignement pris, qui est assez rapidement mortel. Hein. En fait, on les a ramassés quelques heures après qu'ils aient soit sortis de chez eux en ayant tripoté les poignées de porte sur lesquelles il y aurait eu du poison. Finalement, on en a beaucoup parlé.
Lui et sa fille, je crois.
Oui, lui et sa fille, c'est ça, tous les deux. Voilà, tu as bonne mémoire. Ouais. Donc, on a monté, mais très, très rapidement, une affaire anti-russe caractérisée. C'est le poison des Russes, Novichok. C'est une décision du président russe de tuer ces deux personnes qui sont russes exilés, qui n'ont pas de rapport avec le pays russe, enfin pas avoir avec les officiels russes. Hein. On ne sait pas d'ailleurs pourquoi la Russie leur en aurait voulu, il n'y avait pas d'explication, mais il y avait un crime commis par Poutine, je résume, mais c'est comme ça que la presse résume. Ouais. Finalement, d'ailleurs, alors après, ça c'est le moment où la presse s'énerve, fait des grands articles, etc. Et puis après, on s'aperçoit que ce poison mortel, finalement, n'était pas, parce qu'ils ont passé quelques semaines à l'hôpital, ils sont vivants, ils ont continué leur vie normale, etc. Il n'y a pas de souci. Bon. Mais c'est pour montrer qu'on était déjà, enfin c'était pas le début, mais on était déjà sur un des cas où il fallait trouver des raisons de dire que la Russie empoisonnait tous ses opposants, alors que les Skripal n'étaient même pas des opposants, c'était des Russes exilés, c'était leur problème, mais pas plus que ça. Ce qui s'est passé, c'est sur quoi que je voulais m'arrêter un petit peu après, c'est que ce cas d'empoisonnement par ce soi-disant poison, alors ce soi-disant poison, il est connu, y compris des services d'espionnage occidentaux, qui le caractérisent tout à fait clairement, et c'est que le dossier est venu devant la fameuse organisation internationale qui s'occupe de la lutte contre les produits, les armements biologiques et chimiques. Bon,
ouais.
Hein, bon, on a beaucoup parlé à propos de la Syrie. Et donc, cette organisation a été saisie pour savoir exactement quelle était l'origine de ce poison, si c'était bien celui-là, etc. Et cette organisation a noyé le poisson. Ce n'est pas la première fois. Et alors, elle a noyé le poisson, alors ce n'est pas l'organisation toute seule, c'est son directeur général. C'est son directeur général, alors dont j'ai le nom, qui s'appelait à l'époque monsieur Ahmet Uzumcu, qui est donc un diplomate turc, qui est considéré comme un natophile en acharné ou enragé, qui a été membre d'ailleurs de plusieurs états-majors de l'OTAN en tant que tel, qui a été chargé de l'extension des opérations militaires de l'OTAN à la frontière russe, tenez-vous bien. Ben, ce monsieur, directeur général de cette organisation de lutte contre les armes biologiques, ben il a classé le dossier. Comme ça, on peut continuer à dire c'est encore Poutine qui a voulu tuer monsieur Skripal et sa fille. Voilà. C'était pour dire que, et c'est un élément intéressant, mais c'est un cas parmi d'autres, mais il faut faire attention, ces organisations internationales, quand elles se mettent à prendre Enfin, elles essayent de faire leur travail, soyons simples, honnêtement. Il y a des difficultés parce que les États-Unis, qui souvent les financent et qui en tirent prétexte pour intervenir dans leur fonctionnement, essayent de leur faire dire autre chose que ce qu'elles devraient dire si elles faisaient bien leur travail, ou mettent à leur tête, ou arrivent par des jeux d'influence, mettent à leur tête des gens qui, en fait, leur sont beaucoup plus dévoués qu'à l'organisation elle-même. Bon. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, on l'avait déjà vu, puisqu'au moment de la guerre de l'Irak, M. Bolton, donc, qui était chargé des relations internationales du président Bush, hein, je parle de la deuxième guerre de l'Irak, avait fait pression sur un diplomate brésilien qui suivait ces questions-là à l'ONU, et il lui avait dit, et le diplomate brésilien l'avait confirmé devant les caméras de télévision, il a menacé mes enfants de mort, donc je démissionne. Mmh. Voilà. Voilà comment les choses se passent à New York, dans la grande maison si humanitaire et si égalitaire. Bon. C'est d'ailleurs, et je vais rebondir là-dessus, c'est d'ailleurs ce dont se sont plaints ces derniers jours un certain nombre de membres des délégations qui sont en ce moment dans les non-permanents du Conseil de sécurité, qui ont dit que par rapport au dernier débat qui a eu lieu au Conseil de sécurité le 18 mars, concernant la situation en Ukraine, ils avaient subi des pressions qu'ils n'auraient jamais imaginées auparavant. Et ils parlaient devant de bras tordus, de menaces personnelles, etc. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'ils votent dans un sens qui ne convenait pas à la diplomatie des États-Unis. Alors il faut savoir ça, et il faut imaginer, et c'est pas du tout, je jette pas la pierre au secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, mais lui, il sait tout ça. Puis ça se passe chez lui, dans ses bureaux. Hein. Il sait qu'effectivement, tout ça, ça se passe à New York. Donc c'est truffé de micros, de caméras, et puis que les gens qui sortent de là sont suivis par le FBI, etc. Enfin, c'est pas un lieu tranquille et neutre pour ça, la fameuse maison de verre de l'ONU. Et donc M. Guterres, je pense, quelle que soit son opinion, je ne veux pas le savoir, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait libre de ses mouvements ni de ses propos. Alors il fait des phrases très généreuses, très larges, etc. Mais quand il sait qu'à l'intérieur de son institution, dont il est le responsable, il se passe des choses comme ça, il doit savoir que son action a évidemment des limites. Alors on peut rêver, j'ai déjà rêvé en disant quand est-ce que l'ONU quittera New York, on verra, ce sera un peu dans une autre histoire, mais au moins dans un endroit où il y aurait moins de possibilités d'exercer ce type d'influence. Et on peut imaginer, alors je rêve devant vous, que comme dans les États-Unis, il y a un territoire qu'on appelle le District of Columbia, c'est-à-dire, vous savez que la capitale, Washington, a un statut tout à fait particulier. Il n'y a pas de gouverneur de Washington, c'est là où il y a le siège de l'État, donc l'endroit le plus important et le plus stratégique. Et donc ça ne rentre pas, ce n'est pas un État comme les 50 autres, c'est un endroit particulier. Alors pourquoi il n'y aurait pas quelque part sur la planète un district de l'ONU où l'ONU pourrait faire librement son travail et où les délégués des différents pays pourraient librement s'exprimer, qu'ils s'expriment d'un petit pays ou d'un grand pays. Bon, on n'en est pas tout à fait là, mais c'était mon quart d'heure de rêve. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on a Gilles de Verre ? Toujours pas. Bon. C'est pas grave. Donc, j'y suis presque, on va un peu vous parler de l'Ukraine. Vous parlez de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps de spectaculaire ? Je rentre pas alors dans les détails au jour le jour. Bon, il y a toujours des fausses informations sur ci et sur ça et tout. Bon, ça, on en est abreuvé, mais on le sait. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est quand même la visite d'une semaine quasiment du président Biden sur le sol européen. Alors, il a commencé, vous le savez, par un sommet de l'OTAN. Là, il en est membre, il n'y a pas de souci. Il s'est un peu mélangé avec le sommet de l'Union européenne, bien qu'il ne soit pas membre, mais on l'attendait à bras ouverts pour parler de la situation. Alors ça a été interprété comme disant « le camp occidental se resserre ouais. ». C'est peut-être pas si sûr que ça. S'il est venu, je pense qu'il fallait qu'il fasse le point avec tous les Européens, tous les chefs d'État ou de gouvernement européens qui étaient là, pour savoir si la politique qu'ils suivaient leur faisait vraiment plaisir ou pas. Et je pense qu'il a eu des échos divers, parce qu'il y a quand même un certain nombre de chefs d'État, j'arrive, qui se posent la question sur les conséquences économiques des sanctions extrêmement sévères qui ont été imposées. Bon. Donc on en reparlera tout à l'heure, mais je crois qu'on a Gilles de Verre en ligne. Il est là, 2 minutes. Non, il n'y est pas. Bon. Alors, on continue. Alors, deux hypothèses, alors ça a été présenté comme la grande fraternité, on s'embrasse sur la bouche, etc., tout va bien, mais en fait, je pense qu'il y a des ajustements qui sont en cours et qu'il y a des gens qui doivent dire « c'est bien joli ». Je prends le cas du gaz naturel. C'est bien joli que les États-Unis nous imposent d'acheter leur gaz de schiste naturel, mais ils en promettent des quantités qui sont très, très inférieures aux besoins quand on aura supprimé l'arrivée du gaz russe. Bon, ça, c'est la donnée globale en chiffres. Mais très, très inférieure. C'est le quart de nécessité, peut-être un peu moins. Bon. Deuxièmement, il y a des nécessités techniques. Là, je vais faire un peu le technicien portuaire. Le gaz naturel liquéfié, ça arrive dans un bateau. Ça arrive dans un bateau et ouais. Ça arrive comme dans une bouteille de butagaz que vous pouvez avoir chez vous. C'est liquéfié. C'est liquéfié à une température très basse puisque c'est moins 160 degrés centigrades. Bon. Ouais. Quand il arrive dans le port, il faut qu'il trouve une installation pour être à nouveau... Alors, dans le port d'embarquement, ce gaz qui est arrivé sous forme de gaz a été réduit sous forme liquide dans une usine qu'on appelle une usine de liquéfaction. Ouais. Donc on a porté sa température, de la température ambiante, à moins 160 degrés. Bon, donc ça ne se fait pas n'importe où. Ça coûte et puis il faut une installation industrielle, solide. C'est quand même pas, c'est un petit peu dangereux. Hein. Ouais. Bon, il faut le faire. Et il n'y a pas énormément d'endroits où on peut le faire. Il y a un certain nombre d'installations aux États-Unis, mais il n'y a pas tellement d'endroits. Bon. Et puis, dans l'autre sens, c'est pareil, c'est-à-dire que le navire décharge son gaz liquéfié dans une usine, une installation industrielle, dans laquelle on va le détendre, c'est-à-dire lui laisser reprendre et la température ambiante et la forme gazeuse, et puis récupérer ce qu'on appelle les frigories, qui sont l'équivalent en froid des calories en chaud. Bon. C'est pas rien. Et puis, on n'en fabrique pas une usine de liquéfaction ou de regazéification comme ça du jour au lendemain. Alors, pour donner un exemple, puisqu'on est dans la région de Marseille, il y a dans le port de Fos-sur-Mer deux installations de regazéification du gaz. Une qui a été mise en place dès l'origine pour recevoir le gaz d'Algérie, qui arrive sous cette forme-là, et puis une autre qui a été mise en place pour recevoir du gaz d'ailleurs, du gaz égyptien, du gaz qatari, etc. C'est bon, il est là ? Ah, bon, on reviendra sur le gaz tout à l'heure. Gilles ? Je l'entends.
Ah oui.
Ah bonjour, bonjour, merci, on t'attendait. Bon, j'ai rapidement dit qu'il y avait eu un changement dans la politique espagnole, mais tu vas nous en dire plus et puis nous dire les tenants et aboutissants juridiques de ce gros dossier. Merci d'être avec nous.
Ben, bonjour à toutes et à tous. Et je vois que vous vous intéressez toujours aux affaires de l'Afrique et de la dernière colonie du Sahara occidental.
Et oui.
Quels que soient les événements, on a toujours en tête d'inverser le jeu et d'imposer à la France et à l'Espagne la libération du territoire et le Maroc au milieu de tout ça. Ce qui s'est passé, alors est-ce que c'est un changement de politique espagnole ? J'ai même parlé l'autre jour à un professeur de droit constitutionnel espagnol.
Oui.
Qui disait non, parce que c'est dans la Constitution, c'est le gouvernement qui définit la politique étrangère. C'est-à-dire que nous, en France, c'est le domaine réservé du chef de l'État.
Oui.
Et dans d'autres, ça peut être le domaine réservé du Premier ministre, mais en Espagne, c'est le gouvernement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu aussi cette furie des ministres qui ont découvert qu'il y avait cette déclaration du chef du gouvernement, Sanchez.
Ah d'accord, il l'a fait tout seul, donc. Ou presque.
Voilà, c'est ça. Et donc, on a un peu attendu, parce que ça semblait quand même un peu gros. Alors, il y avait cette lettre, elle était secrète, mais quand vous donnez... C'est là qu'on a quand même affaire à des enfants, parce que vous donnez une lettre secrète au Marzen, on compte le compte à rebours pour savoir... Donc, ça n'a même pas tenu trois jours, et puis tout le monde avait la lettre qui a bien été signée par... le chef du gouvernement, et donc c'est une prise de position qui a une existence, hein, mais qui n'a aucune existence juridique, et même politiquement, elle n'engage pas le gouvernement espagnol, non. Voilà, alors qu'est-ce qu'il dit dans cette lettre ? Ben, il explique que l'Espagne avait traditionnellement une attitude de neutralité sur le dossier, et qu'ils allaient considérer maintenant que le point de vue marocain, qui est le plan d'autonomie, donc sous loi marocaine, était mérité de considération. Enfin bon, les formules sont un petit peu prudentes, mais en gros, c'est ça, c'est-à-dire qu'il abandonnait une neutralité, une équidistance, pour marquer tout son intérêt pour le plan d'autonomie. Et le Maroc qui cherche des soutiens, évidemment, sud de l'Espagne, ça compte, voilà. Sauf que, évidemment, il y a beaucoup de choses qui coincent tout de suite. Bon, c'est-à-dire que la première, il dit on avait une position de neutralité, mais... Ce n'est pas la neutralité, c'est simplement le respect basique des résolutions de l'ONU et des décisions de l'ONU, vu que le Maroc est sur la liste des territoires non autonomes depuis 1963. À l'époque, il y avait un grand nombre d'États, pratiquement tous les États africains, et il en reste maintenant 12 ou 13. Le statut du territoire, il résulte d'une décision cinquantenaire de l'ONU. Mmh. Donc, il n'y a pas de neutralité. C'est le respect du droit. Voilà, la neutralité veut dire que il y a d'un côté un, d'un côté l'autre, et j'essaie d'être équidistant entre les deux. Non, il y a le côté du droit puisqu'il est illégal. Voilà, donc le chef du gouvernement est en train de tourner la page à titre personnel ou avec les soutiens qu'il emporte, il tourne page à la légalité pour entrer dans un copinage qui est de faciliter la relation avec le colon.
Oui, alors, tu parles de réaction dans le gouvernement espagnol. Il y a des suites, il y a une tension dans le cabinet, ou est-ce que c'est passé ?
Ah ben là, je ne connais pas, je lis pas l'espagnol.
D'accord.
Je n'ai pas non plus assez de lire là-bas, mais on sait que sur le fond, Podemos et toute une partie de la gauche a toujours été un soutien, et les Basques, etc., ont toujours été un soutien très fort du peuple sahraoui, et ça risque pas de changer. Donc après, politiquement, ils vont le gérer de telle ou telle manière. Bon, est-ce qu'ils vont faire tomber la coalition gouvernementale là-dessus? C'est quand même peut-être pas évident, surtout que cette lettre est tellement maladroite et idiote, parce que comment imaginer un changement de politique fondamentale par une lettre faite à titre personnel et secrète pendant 3 jours, quoi. Donc, je peux comprendre aussi les ministres qui le disent. Nous, de toute façon, on a un point de vue. La politique espagnole, elle n'a pas changé. On a une initiative sans suite, enfin, qui est condamnée à rester sans suite, du chef du gouvernement.
D'accord. Alors, ce que je peux te dire pour lire un peu la presse espagnole, c'est qu'il y a eu des manifestations de rue importantes.
Oui. Oui, samedi, oui.
Animé par beaucoup, même des dirigeants historiques de Podemos, pour dire qu'ils n'acceptaient pas. Oui, donc ça, la réaction politique commence, c'est clair.
Ah oui, c'est sûr que, disons, quand en France, on a toujours des difficultés. Enfin, bon, il y a une certaine mobilisation, mais c'est très, très limité, alors qu'en Espagne, ça parle à tout le monde. Et j'ai vu les manifestations qu'il y a eues à Madrid. Bah, je pense que quand il y a des grands événements pour la Palestine, on a le même genre de choses en France, mais ça parle énormément. Il faut quand même bien rappeler que, historiquement, le territoire était une province espagnole, puis une province sous colonie espagnole. Mmh. Quand en 1962, comme pour toute l'Afrique, on dit ben, les peuples vont accéder à l'indépendance avec des référendums d'autodétermination, le Sahara occidental, il est sur la liste comme les autres.
Tout à fait.
Et l'ONU nomme ce qu'on appelle la puissance administrante, qui est en fait celui qui était sur place, mais celui qui est sur place, il prend il accepte, il n'a pas le choix de toute façon, parce que c'est un mouvement général qui touche toute l'Afrique et l'Asie. Mmh. Il a mandat d'organiser le référendum d'autodétermination, de passer les pouvoirs, et puis voilà ce qui a marché à peu près dans tous les pays africains, sauf ici. Et la puissance occupante, ben, c'était la puissance coloniale, donc c'est l'Espagne. Et l'Espagne, elle est puissance administrante parce qu'elle a reçu un mandat de l'ONU, c'est-à-dire que non seulement ils sont tenus, ils ne peuvent pas dire « je suis neutre », parce qu'ils sont tenus, comme tout le monde, à respecter. Et en plus, ils ont été désignés comme administrateurs. Et à l'époque, d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'on a des déclarations du roi du Maroc, Hassan II, qui était un démocrate moyen, on va dire. Hein. qui avait fait des déclarations où la roue était en train de se tourner, et donc en disant la question c'est pas de savoir quand est-ce que le Sahara c'est indépendant, c'est le plus tôt possible, il choisira lui-même sa capitale, et j'ouvrirai le premier l'ambassade, que ce soit Darla, que ce soit Laayoune, c'est le chef d'État, le Hassan II qui déclarait ça. Voilà, et puis ensuite il se passe une chose, c'est que Franco est fatigué, Franco est malade, puis Franco n'a rien à foutre de ces histoires africaines. Donc, il commence un deal en disant, on va filer le mandat au Maroc, et le Maroc se débrouille. Et là, tout d'un coup, le Maroc inverse son point de vue à 180 degrés, se découvre une histoire éternelle sur le territoire, découvre une souveraineté, et ils font les accords de Madrid par lesquels l'Espagne, qui avait reçu un mandat de l'ONU, le refile au Maroc, ce qui n'a aucune valeur juridique. Et comme ils savent que ça n'a aucune valeur juridique, ils l'ont fait par un accord secret, donc celui-là, il a tenu plus de 3 jours. qui n'a jamais été publié au journal officiel, qui est ceci. Et en l'état actuel, le Maroc, qu'est-ce qu'il est ? Ben, le Maroc, il n'est pas administrateur du territoire parce que ça reste juridiquement l'Espagne. Donc là, le point de vue de Sanchez et le fait que ça réagisse comme cela dans la vie politique et dans la société en Espagne, c'est parce qu'il y a vraiment une trahison du droit international avec une ampleur exceptionnelle. C'est un peu ce qu'a pu faire la France avec Mayotte.
Oui, tout à fait.
Ça ressemble, mais oui, c'est où on dit je te fais un référendum, oui, bien sûr, sur les quatre îles, bien entendu, et tu respecteras le résultat, mais bien entendu, je suis la France, quand même, vous n'allez pas me faire des trucs, et ils font le vote en étant sûrs de le gagner, ils le perdent, et après ils disent, mais finalement, on n'avait pas vu comme il faut, le résultat, il faut le faire île par île, donc on garde.
Bon, on sauf garde que Mayotte, et on jette les autres.
Voilà. Que veut Mayotte parle moins aux Français que le Sahara occidental. Et c'est passé comme cela, mais ce sont des violations graves du droit international, évidemment, hein. C'est un côté un peu cocasse ou iconoclaste de voir l'Espagne qui, le matin, fait des communiqués fulminants contre la Russie, qui ne respecte pas la souveraineté, qui ne respecte pas le droit international, qui fait des guerres de conquête, etc. Et qui, l'après-midi, cite une lettre secrète au Maroc pour dire « Bon, toi, t'as conquis le territoire, t'as mis ton armée, t'as mis tes préfectures, chose que Poutine n'a encore pas fait, en Ukraine. Mais quand même, je vais t'apporter mon soutien parce que ton point de vue mérite considération. » Donc, ils sont... je pense chez les sportifs, c'est, je sais pas ça, non, là, c'est longer les écarteurs, ou je ne sais plus comment on dit, les adducteurs. Mais il ne peut pas faire le grand écart comme cela pendant longtemps.
Non, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a des suites en droit ? C'est-à-dire, est-ce que l'ONU peut réagir en disant cette lettre, elle est nulle ? Est-ce qu'il peut y avoir une critique officielle extérieure à l'Espagne par rapport à ça, non ?
Non, parce qu'à l'ONU, le jeu est complètement pipé, vu que... c'est toute la difficulté pour les Sahraouis. Le Conseil de sécurité est blindé, vu que dès qu'il arrive quelque chose, la France met son veto, et puis elle passe son temps dans les couloirs à organiser la rédaction des délibérations dans un sens et dans l'autre. À l'Assemblée générale, il y avait tout le bloc des anciens pays communistes et de pays africains qui apportent évidemment son soutien. Et il y a un nombre de partis africains qui sont maintenant sous influence des Émirats et de l'Arabie saoudite, et donc d'Israël et donc du Maroc, qui ont changé leur vote. Et puis les anciens pays du bloc soviétique, ils sont devenus ce qu'ils sont, quoi. Donc ils votent plus. Ce qui fait que même à l'Assemblée générale, c'est difficile d'avoir une majorité favorable. Donc il reste par contre le droit européen.
Oui.
Et notre cour de justice de Luxembourg, tellement décriée, je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle a tellement de qualités, c'est comme cela. Moi, je pense qu'elle est décriée justement parce qu'elle a des qualités. Et donc, on a un litige actuellement, on a fait annuler la cour. C'est la première fois qu'une instance internationale annule un accord signé entre l'Union européenne et un pays tiers, le Maroc. C'est le Maroc, mais pour un autre, ça ne s'est jamais fait. Et elle n'a pas hésité, et elle le fait pour ce peuple sahraoui, 300 000 personnes, qui est un mouvement de libération nationale, le Front Polisario, avec un État non reconnu en Europe, elle l'a fait. Ce n'est pas un tribunal révolutionnaire qui l'a fait. Ils ont fait le pourvoi, et donc on est en train de préparer les pourvois, c'est-à-dire qu'ils ont fait enregistrer très rapidement nos mémoires en défense, et on aura une procédure avec... peut-être une audience en fin d'année ou en début de 2023, on verra bien, mais c'est pas très très long. Et le problème, c'est que l'Espagne, elle est partie prenante dans cette procédure.
Et oui.
Donc là, on va bien voir ce qu'elle raconte, parce que quand c'est des communiqués ou des lettres secrètes, vous arrivez à enrober et à dire ce que vous voulez pour que le Maroc vous fiche la paix et arrête ses chantages à l'immigration. Mais quand vous êtes devant la cour, au bout d'un moment, c'est une chose ou une autre. Voilà, donc il va falloir dire, est-ce que l'Espagne, elle reconnaît une souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental ? Mais si elle veut le dire, on va lui sortir les mémoires qu'elle avait écrites il y a 6 mois qui disaient l'inverse.
Exactement, oui.
Donc ça ne peut vraiment pas aller loin. C'est comme la déclaration de Trump qui, soi-disant, était le changement de tout, vu que Trump, je rappelle pour ceux qui suivent moins ça, avait fait une déclaration en disant « Moi, je reconnais la souveraineté des États-Unis, reconnaissent la souveraineté du Maroc. » Mais il l'avait fait à titre personnel, comme Sanchez. Donc ça n'engageait ni le Parlement, ni le gouvernement en tant que tel. C'est une déclaration isolée du chef d'État. Et un chef d'État, il peut dire ce qu'il veut, mais il n'y a aucun chef d'État qui a la possibilité de modifier le statut d'un territoire qui est défini par l'ONU. Donc en fait, vous aviez eu un buzz médiatique de dingue avec ça, mais la réalité juridique était zéro à tel point que quand on a plaidé l'affaire devant le tribunal de l'Union européenne, il y a, tout le monde est contre nous, vu qu'on a le Conseil, la Commission, la France, l'Espagne, le Portugal, et que le Parlement européen également pousse dans le, oui. dans le même sens, mais il n'y en a aucun, et le Maroc était représenté par son cabinet d'avocats, et même l'avocat du Maroc, il n'a pas osé dire devant les juges que Trump avait reconnu la souveraineté, donc il n'y avait plus de débat, c'est-à-dire qu'en fait, tu as un monde abyssal entre le jeu politique qui serait complètement écrasant pour les Sahraouis et le jeu juridique où on se trouve avec des juges intègres qui appliquent la même loi pour tous et sur lesquels on a une marge de progression considérable.
Voilà. Donc, alors, une question par rapport à ça. Le fait que la... On est coupé ? Non. Le fait que la position de l'ONU soit violée, c'est-à-dire ça fait donc 50 ans que ça attend, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'action de ce point de vue-là ? On a été coupé, je pense, de Gilles Devers. On va le reprendre. On va alors, le reprendre. Il est là ?
Je vais essayer de le rappeler.
Ok, essaye de le rappeler. Alors on entend l'appel. On entend. Il est...
J'essaie de le rappeler.
Vas-y, tu nous fais signe. Bon. Je continue. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura à nouveau en ligne. Je continue la visite de Joe, de Uncle Joe, comme disait. Non, je ris parce que vous savez que Churchill parlait de Staline en disant Uncle Joe. Mais ce n'est pas tout à fait le même placé. C'est Joe Biden.
Joe Robinette.
Donc, le voilà donc, à Bruxelles, donc, où on réunit la famille atlantique et puis on s'explique. Alors, il sort de ça des communiqués de victoire, on s'aime, etc. Mais il est certainement... Il est évident que pour des gouvernements qui sont responsables de leur activité, de l'activité économique de leur pays, de leurs intérêts, il y a dû avoir des questions posées. Je parlais de la question du gaz, entre autres choses, parce que outre ce gaz qu'on arrivera pas à recevoir les quantités qui ne seront pas fournies par les États-Unis, mais en plus à des prix qui défieront toute concurrence. Bon. Donc ça, c'est annoncé dans les journaux. Et en fait, c'est pas possible de le mettre en œuvre. Hein. On aura la même chose pour les histoires de blé, qui vont être cruciales pour le blé ukrainien et le blé russe, parce qu'il n'y a personne qui sera capable de remplacer ces deux pays qui fournissent à peu près 35% du commerce mondial de blé du jour au lendemain. Ça n'existe pas. Hein. Donc il faudra bien réfléchir sainement à ces situations-là. Donc l'étape suivante, donc ça c'était la réunion de Bruxelles. On est tous d'accord, mais enfin on a quand même un certain nombre de questions qui se posent entre nous, mais dont on ne va pas parler à la presse. Ensuite, c'est le voyage extraordinaire à Varsovie. Alors là, c'est du grandiose. Tout y passe. Alors, le pape Jean-Paul II, la Jvaleza, j'en passe, c'est des meilleurs. La Pologne a toujours... Il est plus joignable. Ça. Bon, ben donc, vous avez compris, on va le remercier. Vous avez compris donc, que la situation du droit est clairement établie par l'ONU et par la Cour de justice européenne. Mm-hmm. Hein. Donc, le Sahara occidental est un territoire autonome qui doit avoir son statut réglé par un référendum d'autodétermination qu'on attend depuis 50 ans. Malgré tout, parce que tout le monde freine, et c'est prévu. Et donc ça, l'ONU ne changera pas d'avis. L'ONU ne peut pas se déjuger sur une politique qu'elle a établie et qui est respectée quasiment partout. Hein, puisque même pour la Nouvelle-Calédonie, la France a fini par organiser un référendum, on le sait. Hein. Donc personne ne peut échapper. Donc il y a eu... Alors qu'est-ce qui est arrivé à M. Sanchez ? Qu'est-ce qu'on lui a promis ? Est-ce qu'il a voulu faire un effet ? On ne sait pas trop. Ça va probablement, si on en croit Gilles, et je le remercie de nous avoir donné cet optimisme, ça va probablement pas aller bien bien loin. Mais ça débouche sur une crise... Hein ? On lui a promis le Maroc. Non mais c'est pas parce que... Alors, il a voulu faire plaisir au Maroc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, faire plaisir au Maroc ? Hein ? Parce qu'on sait par ailleurs que les rapports entre le Maroc et l'Espagne sont compliqués. Du serait-ce que des flux de migrants, des problèmes... Enfin, vous savez que le Maroc a demandé à un moment donné à rentrer dans l'Union européenne. C'est l'Espagne qui s'y est opposée. Vous savez, quand un pays demande à accéder à l'Union européenne, c'est les membres, donc les 27 aujourd'hui, qui disent on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Hein, c'est pas j'envoie une lettre et j'adhère, c'est pas comme une association. Hein. Et donc, au moment où le dossier a été examiné par l'Union européenne de la demande d'adhésion du Maroc à l'Union européenne, l'Union européenne a dit non, et sous pression de l'Espagne elle-même. qui a dit « moi, j'en veux pas ». Alors, effectivement, il y avait là, en plus, un argument géographique élémentaire. On dit, mais attendez, l'Europe, ça s'arrête à Gibraltar. Autrement, où va-t-on? On va prendre n'importe qui, n'importe où. Mais c'est ce qui s'est passé. Alors, c'est encore plus cocasse quand on rappelle ça, ce refus donc espagnol de faire entrer le Maroc dans l'Union européenne. Et l'attitude dont on ne sait pas quelles sont les causes de ce monsieur Sanchez qui, tout d'un coup, est pris d'un coup de folie. Bon. Peu importe, on en reparlera. Donc j'arrive à Varsovie. Alors, Varsovie, c'est grandiose parce que... la Pologne, parce que c'est triste à dire, et j'en veux pas au peuple polonais pour ça, mais chaque fois qu'il y a un conflit avec les Russes, les Polonais sont au premier rang et on les utilise en plus, parce que l'histoire montre que c'est pas en général pas à leur bénéfice, mais ils sont toujours prêts à s'affronter aux Russes. Alors... La coupure est étrange parce qu'en fait, il s'agit quand même principalement à l'origine de deux peuples slaves, le peuple polonais et le peuple russe, qui devraient avoir des points de contact. Ils n'en ont pas beaucoup. Ils ont des langues qui sont dans le même rameau. Ce n'est pas deux langues sœurs, mais enfin, elles sont dans le même rameau linguistique. La coupure historique, alors les coupures historiques, il y en a une multitude, puisqu'ils ont rarement été d'accord. Il y a une autre coupure, et c'est pour ça qu'il faut la rappeler, parce que ça fait référence à l'affaire Jean-Paul II, donc au pape polonais, c'est que la limite entre la Pologne et la Russie, c'est la limite historique sur le continent européen entre le catholicisme et l'orthodoxie. Et ça, ça reste vrai. Ça reste vrai, même si on est aujourd'hui dans des sociétés où la pratique religieuse et plus qu'elle était, la fréquentation des églises et tout ça, vous le savez, est connu. Mais de fait, il y a une vraie coupure. Il y a une vraie coupure parce que d'un côté, donc, on a un appareil. Vous savez, catholique en grec, ça veut dire universel. Bon. Il faut le rappeler. Bon, on a un appareil structuré, vous connaissez tous, le système vaticanesque. Et puis de l'autre côté, on a des espèces de chefs spirituels qui organisent des gens, mais un système beaucoup plus souple, beaucoup plus fédératif, qui est très différent, qui commence donc tout de suite à la frontière est de la Pologne, qui coupe en deux, je le rappelle parce que c'est un élément important, qui coupe en deux ce qu'on appelle les Balkans, c'est-à-dire dans ce qui était la Yougoslavie, le pays des Slaves du Sud, on avait un côté ouest qui était catholique et un autre côté est qui était orthodoxe. Et puis au milieu, il y avait des îlots de musulmans qui étaient non pas des Turcs qui s'étaient installés là, mais des gens du pays qui étaient des gens de Bosnie ou de Serbie et tout, qui avaient été convertis de force à l'islam par les Ottomans. Bon, c'est tout. Mais la coupure, elle est là encore. La coupure entre la catholicité et l'orthodoxie, elle est très très forte dans les Balkans, dans l'ex-Yougoslavie, et elle reste forte, y compris dans un pays dont on reparlera, dont je veux dire quelques mots quand même, qui s'appelle la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine, donc, c'est un rassemblement. Alors, je reviens sur la question des Balkans très rapidement, je regarde l'heure. Donc, la Bosnie-Herzégovine est un des morceaux de cette Yougoslavie éclatée, dès l'instant où la partie ouest, la partie, disons, catholique, pour faire simple, c'est-à-dire Croatie et Slovénie, est reconnue immédiatement au moment où il y a une volonté d'indépendance par rapport à la capitale yougoslave fédérale, reconnue par l'Allemagne, ensuite par le Vatican et ensuite par l'ONU. C'est ça l'ordre des facteurs. De l'autre côté, côté serbe, ben, on reste du côté des orthodoxes et tout. Et au milieu, il y a cette espèce d'espace bizarre de Bosnie-Herzégovine où il y a à la fois donc quelques catholiques, des musulmans, donc des convertis par l'Empire ottoman, et puis des serbes qu'on a mis là. Et on essaye de les faire vivre ensemble. Or, ça fait maintenant, depuis 1995, ça va faire bientôt 30 ans que ça dure, on n'arrive pas à les faire travailler ensemble. Il faut savoir, c'est un territoire, une espèce de colonie de l'Union européenne dans laquelle il ne se passe rien, où les acteurs des différents groupes des trois communautés ne s'entendent pas et où le seul avenir de la population, c'est de s'en aller. C'est tout. Donc on aura probablement un conflit encore là-dessus parce que l'agitation qui a lieu dans cette Bosnie-Herzégovine, en particulier du côté serbe, qui disent « mais nous on est serbes, on veut rentrer en Serbie et puis qu'on nous laisse tranquille, on nous a imposé de ça ». Je rappelle que le découpage de la Bosnie-Herzégovine et son mode de fonctionnement, qui est inefficace, a été imposé par les États-Unis dans le camp de ce qu'on appelle les accords de Dayton, c'est-à-dire on a enfermé les délégués des trois communautés dans une caserne américaine et on leur a dit « vous ne sortirez de là que quand vous aurez signé ». Ah, d'accord. Bon, ça, effectivement, ça n'a rien donné, puis c'était arraché par la contrainte, ça s'est arrêté là. Et très gentiment, les États-Unis ont confié le bébé à l'Union européenne en disant « débrouillez-vous avec ça, c'est un endroit où on perd son temps et son argent ». Et le, je ne parle pas de l'avenir de la population et des espoirs de vie normale de la population bosnienne. Bon. Et je reviens à ma Pologne. Biden. Alors là, il a quand même, donc il a fait les références qu'il fallait, donc au catholicisme, il a rendu grâce à Dieu. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il est, s'il est réformiste, protestant, j'en sais rien, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais enfin, il savait que là, il fallait parler de Jean-Paul II, il fallait parler de Valéza, ce qu'il a fait, etc. Et puis, il a quand même dit... écoutez, on est là parce que la guerre va être longue. Alors ça, c'est un élément important pour la suite des événements. La guerre qui est en cours va être longue. Ce qui veut dire que, quelle que soit la situation militaire en Ukraine, ou, je vais être simple, mais en gros, on pense que l'essentiel de la partie militaire de l'armée russe est achevé, c'est-à-dire qu'elle n'a pratiquement, enfin, sauf des bastions, des îlots de résistance de l'armée ukrainienne, il n'y a pas beaucoup de possibilités que l'armée ukrainienne remonte du terrain et prenne le gouvernement du pays. On est très très loin du compte. Quand on sait par ailleurs que les milices, les brigades fascistes internationales ont été sévèrement secouées par des tirs de missiles bien ciblés, donc elles ne vont pas avoir beaucoup, beaucoup de succès, donc on peut considérer que cette partie-là de la guerre n'a plus beaucoup de jours devant elle. Par contre, si Biden annonce qu'elle va durer, ça veut dire que... voilà, il va l'alimenter et qu'il va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'accord ou les accords politiques les moins favorables possibles à la Russie dans l'affaire de la part de Zelensky et de ceux qui l'entourent. Ça, c'est tout à fait clair. Hein. Les mots, c'est « longue guerre ». Et cette longue guerre, alors pour bien être clair, ça reproduit avec un vocabulaire un peu différent George Bush le 12 septembre 2001, c'est-à-dire c'est la guerre entre d'un côté les démocraties, de l'autre les autocraties, vous allez entendre ça sur vos antennes, c'est d'un côté la liberté d'expression, de l'autre côté la répression, et enfin, je parle droit là, c'est le pays où il y a des règles, et de l'autre côté, où il y a la force brute. Voilà. Bon. Donc, une fois qu'on a fait ce découpage, effectivement, il y a deux camps. C'est moi qui définis les camps. Hein, et l'autre, c'est le mauvais camp, et je suis contre. Et il y aura donc une longue guerre. Bon. Nous sommes prévenus.
Oh là là.
C'est pas une surprise, parce que de toute façon, je pense qu'ils savent exactement que militairement, le gouvernement ukrainien n'a plus aucun espoir de faire quoi que ce soit.
Et mais donc, je pense que les Russes sont conscients.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais il faut faire durer, fatiguer les populations, accroître le drame humanitaire qui est là, le plus possible, hein, faire peser ça pour éviter que Zelensky, à un moment donné, ne lâche en disant « mais ça suffit maintenant hein. ». Autrement, l'Ukraine disparaît en tant que pays. Ce qui est une hypothèse encore qu'il ne faut pas exclure, c'est-à-dire qu'on sait que quand on connaît la sociologie électorale et politique de l'Ukraine, il y a en fait deux pays. Il y a un pays occidental, l'ouest et le nord-ouest de l'Ukraine, qui est un pays à majorité, alors là aussi catholique ou uniate, c'est-à-dire des catholiques un peu autonomes, avec des influences très profondes de la Pologne, de la Suède historiquement, de la Lituanie, etc. Et puis de l'autre côté, la partie est, ce qu'on appelle la Nova Russia, la Nouvelle Russie, qui est une partie de la Russie, en fait, qui est dans une frontière différente. Et là, il y a une cassure réelle qui se voit tout le temps, qui existe depuis longtemps et qui peut très bien conduire à l'existence de deux États. Alors, en plus, j'ajoute que les groupes fascistes dont on a parlé sont tous à l'ouest et ils sont installés maintenant dans le gouvernement, mais ils sont très très malvenus du côté est. Ça peut être ça. Hein. De toute façon, il est clair que cette longue guerre, elle est aménagée, puisque M. Biden a annoncé qu'il avait déjà envoyé 650 millions de dollars d'armes, ouais. Hein, et qu'il en a rajouté au micro, là, directement à Varsovie, 1,3 milliard. Donc il est déjà à 2 milliards d'armes et de munitions. Et puis ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Donc on a là, la révélation de ce qu'est le complexe militaro-industriel, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un bénéfice peut-être politique, c'est-à-dire arriver à sauver un espèce de gouvernement ukrainien qui n'a plus de pouvoir, en fait, qui est simplement une marionnette, mais surtout faire marcher l'industrie des marchands de canons. Alors là, ils se frottent les mains, parce que tout le monde... Alors, les États-Unis, ça, 2 milliards, mais le budget militaire de l'Allemagne augmente, le budget militaire de l'Italie augmente, le budget de l'Europe... Voilà, ça, ce qui a été dit au sommet de l'OTAN à Bruxelles, avant qu'ils aillent à Varsovie, c'était ça, augmenter les dépenses. C'est-à-dire, ce que Trump a dit il y a 3 ans, hein, passer à 2% du PIB pour vos dépenses, va être passé très, très largement au-delà. Personne, à aucun moment... écoutez, qui vous a dit que ça allait poser des problèmes, tout cet argent qui n'ira pas dans la construction des écoles et des hôpitaux? Est-ce que vous avez entendu ça dans la campagne électorale? Non. Et bien pourtant, c'est ça la réalité. Cet argent ira aux armes, parce que M. Biden l'a demandé, et il n'ira pas dans les hôpitaux et dans les écoles. Voilà, une minute, voilà. On se met bien ça dans la tête pour s'habituer. Alors, on se dit désespéré.
Mais je ne sais pas, moi, la Chine, elle ne peut pas aider la Russie.
Alors, ça, on va en parler. Alors, la dernière chanson qu'on va partir, ça fera la clôture comme ça, c'est Peter Tosh, ça veut dire le jour où le dollar sera mort, et ça nous introduit à l'émission de la semaine prochaine. Voilà, merci Yamin.
Rising so high.